Et maintenant, le dossier qui me fait le plus peur, honnêtement. On termine ce volet-là, santé avec les ambulances. Tu sais, de savoir que si tu calls l'ambulance chez vous, ça se peut qu'elle arrive pas. Tu sais, je sais pas, surtout quand tu vis seul, là, moi, ça se peut, si t'as une crise, t'es malade, que t'appelles, puis ça se rend pas là. Y a une dame, donc, Chauveau, c'est dans mon secteur en plus, qui n'a pas d'ambulance, puis elle a décidé d'y aller par ses propres moyens, et elle est décédée. Vous en avez jasé beaucoup, je pense, durant le congé des fêtes, là, j'ai pas tout vu, mais c'est dramatique. Au Québec, là, au Québec, tu meurs parce que t'as pas d'ambulance, en te rendant à l'hôpital. Elisabeth, dans les réactions qu'on a eues, il y a un ambulancier de carrière à Québec qui a réagi et qui voulait nous parler, qui était en beau tab, garde. Ouais. Dis-moi, là, j'ai des choses à dire. Tu lui as parlé hier.
Oui, parce que ce qu'on entend ce côté des ambulanciers, c'est que ça prend plus de véhicules sur la route, ça prend plus d'ambulances, ça prend plus d'ambulances. Lui, ce qu'il dit, c'est OK, oui, mais le problème, il est ailleurs. C'est la façon dont on gère les véhicules présentement sur la route qui est le problème. C'est pas nécessairement dans le nombre de véhicules qu'il y a sur la route. Alors, il m'a expliqué tout comment ça
fonctionne. Parce que les syndicats, c'est un peu normal. Encore un matin, ils sont dans les journaux. Dans les journaux, c'est ça prend plus d'ambulances, plus de membres, plus de syndiqués. C'est un peu normal. Que ça soit dans l'enseignement, santé, au gouvernement, chaque fois que tu demandes un syndicat, c'est quoi la solution? Il peut pas dire autre chose que ça. Il peut pas dire autre chose que, ben, ça prend plus de membres. Nous, on veut des membres. Notre but, c'est de grossir. Fait que ça veut pas dire que c'est pas vrai.
Ouais.
Il peut y avoir aussi un manque. Ils ont raison, des fois, les syndicats. Mais des fois, il faut creuser un peu plus loin.
Ouais. Alors, il m'a expliqué comment ça fonctionnait quand tu appelles une ambulance, tout le processus. Ouais. Premièrement, la centrale qui s'occupe des ambulances, une centrale qui, c'est une organisation qui est privée. Moi, je savais pas parce que j'ai jamais appelé au 911 de ma vie. Moi, j'étais convaincue que tout se rendait au même endroit. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est que quand tu appelles au 911, la première personne avec qui tu parles, c'est la personne qui est plus généraliste. Et quand tu lui demandes une ambulance, elle va te transférer à la centrale privée qui s'occupe de répartir les ambulances. Alors, la centrale privée, ça, c'est une centrale, c'est une organisation qui a un conseil d'administration. Et puis, à chaque année, la façon d'évaluer les répartiteurs, c'est combien d'appels tu as donné à chaque... combien d'appels chaque répartiteur a donné à des ambulances, finalement. Alors, l'objectif de cette centrale-là, c'est de donner des appels seulement. C'est pas la qualité de l'appel que tu vas recevoir. C'est pas comment tu vas évaluer l'appel selon la gravité. C'est combien d'appels tu as donné à l'ambulance. C'est juste ça, leur objectif. Alors, c'est pas des préposés aux bénéficiaires qui prennent l'appel, c'est pas des infirmières, c'est pas des gens spécialisés en santé. C'est des gens qui ont un code en avant d'eux qui disent « OK, tu as tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, ça correspond à tel code, alors je t'envoie une ambulance de priorité 1, 2, 3, 4, 7. »
OK, alors premier constat.
Oui, alors lui, premier...
Vous savez qu'il y a une urgence à Montréal qui a diminué son temps d'attente de moitié en mettant un médecin au lieu d'une infirmière au tri? Autrement dit, en mettant quelqu'un d'encore plus qualifié? Alors, premier constat, peut-être que si on avait quelqu'un avec des qualifications en santé pour faire le tri des ambulances, que ça irait mieux.
Oui, c'est exactement ça que l'ambulancier à qui j'ai parlé me disait. Lui, il disait, c'est comme des robots, finalement. C'est comme si tu appelais puis tu parlais un robot. Alors, si vous avez tel symptôme, faites le 1. Si vous avez tel symptôme, faites le 2. T'sais, la réflexion, elle est là parce qu'il n'est pas en train d'évaluer et puis de donner une espèce de mini-diagnostic de la personne qui est au bout du fil. Il est juste en train de dire, tu as tel symptôme, ça correspond à une situation d'urgence. Et il m'a dit... Ça, on devrait peut-être pas le dire à la radio, mais en tout cas, j'ai pas le choix de le faire pareil, là. Quand vous dites que vous avez de la difficulté à respirer, votre niveau d'urgence augmente d'un cran. Alors là, vous avez besoin d'une ambulance et rapidement. Ça veut dire que la personne qui prend l'appel, mettons que tu appelles puis tu dis « je me suis cassé l'orteil », là, il va te demander « est-ce que tu as de la difficulté à respirer? » Et si tu réponds « oui », tu deviens un cas urgent. Même si ton problème, c'est que tu t'es cassé l'orteil, mais tu as dit que tu avais de la difficulté à respirer.
Martyr, vraiment, là, souffre le martyr, je suis vraiment inquiet, mais malgré tout ça, je respire bien, je vais être en arrière de lui qui s'est cassé un orteil.
Mais qui dit que...
D'où ma question. Est-ce que les bougons sont au courant de ça?
Je sais pas.
Qu'en disant difficulté à respirer, l'ambulance arrive.
Ou ça peut arriver que c'est une personne âgée, des fois, qui va être paniquée parce qu'elle a besoin d'une ambulance, puis rapidement. Fait que là, une fois que t'es paniquée, là, il va dire, t'as-tu de la difficulté à respirer? Puis là, oui, je cherche mon air un peu, mais c'est pas parce qu'elle a vraiment de la misère à respirer, c'est parce qu'elle est paniquée. Fait que c'est pas, faut être capable. Il dit, si on avait une infirmière ou un professionnel de la santé, il serait capable d'évaluer réellement le degré de gravité de la personne.
Lui est sur le terrain depuis, je pense, des dizaines d'années, là. Autrement dit, c'est quand il arrive, là, puis il reçoit les calls, ça marche pas. L'ordre de priorité correspond pas toujours à ce qu'il voit sur le terrain.
Exactement.
Des fois, il est calé pour une priorité 1, puis il arrive sur place, puis c'est pas ça.
Ouais. Puis moi, il me racontait que sur un chiffre de 12 heures, lui, il travaille de nuit, la personne à qui j'ai parlé, fait qu'il me disait sur un chiffre de 12 heures, à peu près, en pleine nuit. On va avoir en tout, peut-être en moyenne, 6 ou 7 appels, parce qu'évidemment, un appel, ça prend pas juste 10 minutes, là. Faut que tu l'accompagnes à l'hôpital, puis tout ça. Fait qu'il disait en moyenne 6 à 7 appels toute la nuit. Et là, j'ai demandé, parmi ces appels-là, parmi ces cas-là, il y en a combien que tu considères comme étant des appels qui avaient vraiment besoin d'une ambulance. Il dit, ouf, il y a des nuits, c'est zéro. Des nuits, c'est une. Des fois, on a deux appels où on se dit, ouf, là, on fait vraiment le travail pour lequel on a été formé, là. Mais il y a des nuits, c'est zéro. Tu dis, ouf, on n'a pas eu gros thrill cette nuit-là.
Ça veut dire qu'on est encore... C'est la même affaire. C'est la même affaire qu'à l'urgence. Pour certains, l'ambulance, c'est gratuit. Vous savez que plein de gens ne payent pas. Les BS ne payent pas, entre autres. Il y en a d'autres qui ne payent pas l'ambulance. C'est pas juste... Alors, il y a des gens qui abusent du système. Et encore là, ça revient au tri.
Ouais.
L'urgence pourrait être meilleure si on faisait un meilleur tri. À la base, ça a été démontré, le Jewish Hospital à Montréal a mis un médecin à l'entrée au lieu d'une infirmière. Résultat spectaculaire. Le médecin était capable de renvoyer à la maison ceux qui n'ont pas d'affaires là, ou de leur donner une prescription, ou de l'envoyer chez la pharmacie, garde. Alors, dans l'ambulance, c'est la même affaire.
Mais lui, il dit, c'est pas nécessairement des gens qui sont mal intentionnés qui vont nous appeler pour rien. C'est des gens qui sont vraiment paniqués, mais qui ont juste pas d'autre option, puis ils comprennent pas le mot urgence de l'ambulance. Il dit, un exemple comme ça. Il dit, souvent, nous autres, on va être appelés à la même adresse, puis on la connaît, cette adresse-là. On sait exactement c'est qui. Puis à chaque fois, on se dit, bon, encore une fois. Cette adresse-là, c'est une jeune fille de 19 ans qui fait de l'anxiété. Fait qu'elle, aussitôt que je chicane avec quelqu'un de sa famille, avec son père, sa sœur ou sa mère, ça l'angoisse, ça fait une crise, puis mon Dieu, elle est en anxiété, elle a de la misère à respirer. Fait que là, elle appelle l'ambulance, nous, on n'a pas le choix de se rendre, on la connaît très bien. Elle pourrait décider d'appeler un taxi, elle a 19 ans, elle est quand même autonome de ses moyens, elle pourrait essayer de voir des spécialistes qui l'aideraient à trouver des façons de calmer son anxiété, mais là, non, elle appelle l'ambulance, nous, on l'amène à l'urgence. Rendu à l'urgence, évidemment, c'est vraiment pas un cas prioritaire, fait qu'elle attend des heures pour finalement retourner chez elle avant de voir un médecin, parce que sa crise d'anxiété est passée.
Évidemment,
qu'est-ce que ça a donné, ça?
Ouais, ben, évidemment, ça coûtait 150 $. Si elle payait ce que ça coûte l'ambulance, ou etc., ou l'urgence, ou les frais. On est face, dans le monde de la santé, au problème de la gratuité. Ce qui n'est pas mauvais, la gratuité comme telle, ça a aussi des avantages, là. Mais c'est pour ça qu'il faut modérer. Tu sais, quand on parle d'un ticket modérateur, quelque chose un petit peu qui...
Et ensuite, il m'a dit, une source immense d'appels inutiles d'ambulance à Québec, et partout au Québec, ce sont les CHSLD. Pourquoi? Parce que souvent, tu n'as pas de médecin dans les CHSLD et les préposés aux bénéficiaires ne veulent pas prendre de chance.
Ouais.
Alors, par exemple, il y a un patient qui s'est coupé à la main quelque part. On lui a fait un bandage, mais là, le préposé a peur qu'il se vide de son sang pendant la nuit, par exemple. Il va appeler l'ambulance pour être bien sûr qu'il voit un médecin puis que le médecin dise tout est beau. Il dit, il s'est coupé la main, là. Tu fais un bandage, il n'aura pas de problème, là. Mais le préposé, puis je le comprends quelque part. S'il fallait qu'un drame arrive sur le dos de cette personne âgée-là et que ça se ramasse finalement par la faute du préposé, il se dirait, là, j'aurais peut-être dû l'appeler, l'ambulance. Mais pas de médecin égale des gens qui sont sur place qui n'ont pas nécessairement les compétences pour réagir à toutes les situations égale on ne prend pas de chance, on appelle l'ambulance pour n'importe quelle niaiserie, là. Fait qu'il dit CHSLD, c'est une source incroyable d'appels inutiles pour les ambulances.
Comment ça se fait qu'on charge 16 $ à des gens qui vont subir des traitements de cancer à l'hôpital, s'ils ont vraiment d'affaires là, puis on n'est pas capable de charger 5 $ à quelqu'un qui n'a pas d'affaires à l'urgence? Répondez-moi ça.
Non, j'en trouve pas de réponse.
Pourquoi ça serait pas ça, la loi? Au niveau des ambulances puis l'urgence, quand ça coûte rien, c'est gratuit, on reste ça de même. Mais, si le médecin peut dire, regardez, là, monsieur, madame, vous aviez vraiment pas d'affaires, là, aujourd'hui, là. Alors, je vais vous donner le ticket modérateur de 5 $. N'hésitez pas, c'est vraiment plus compliqué à venir nous voir, là. Commencez pas pour 5 $ à vous laisser souffrir inutilement à la maison, ouais. Tout ça. Venez. Mais là, aujourd'hui, là, regardez, j'ai le constat, je vous l'ai dit, madame, là. Fait 5 fois que je vous vois cette semaine, là. Ça, c'est des crises d'anxiété. Vous n'avez pas d'affaires ici. Alors là, je vous le donne, le ticket modérateur. Pourquoi on pourrait pas pénaliser ceux qui n'ont pas d'affaires là? En leur donnant un avertissement d'abord. Peut-être. Hein, on pourrait mettre un système, garde, premier avertissement verbal, c'est dans ton dossier, on a tous des dossiers. Monsieur, madame, ça fait plusieurs fois là que vous venez à l'urgence ou que vous prenez l'ambulance pour rien. Vous pénalisez des gens vraiment malades qui, pendant ce temps-là, meurent dans leur char. Alors, vous allez avoir un ticket modérateur. Puis, en tout cas.
Et l'autre problème, c'est une fois rendu à l'urgence à l'hôpital. Moi, j'étais convaincue que quand l'ambulance arrive à l'urgence, elle donne le patient à l'infirmière ou à n'importe qui est là-bas, puis elle s'en va. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu arrives en ambulance à l'hôpital à l'urgence, si jamais tu es capable de rester dans la salle d'attente assis, en position assis, là, l'ambulance va pouvoir quitter. Elle va t'enregistrer, elle va te dire c'est quoi le cas à l'infirmière et ensuite elle s'en va. Par contre, si tu es un cas où tu as besoin d'être alité et qu'il n'y a pas de lit disponible, tu dois demeurer couché dans l'ambulance jusqu'à ce que tu vois un médecin ou jusqu'à ce qu'un lit soit disponible. Il dit, des fois, ça peut prendre 3 heures. Des fois, l'ambulance, elle est pognée 3 heures à l'urgence avec son patient couché parce qu'il doit demeurer en position alitée et que tu ne peux pas faire ça dans la salle d'attente et qu'il n'y a pas de lit disponible. Alors ça, évidemment, que c'est une perte de temps immense, là.
Mais ça, c'est revoir tout le système. Ils ne feront pas ça. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dépenser plus. C'est souvent le cas. Rajouter des infirmières, rajouter des médecins, rajouter de l'argent, rajouter des profs, rajouter des spécialistes. De temps en temps, ça peut être... Moi, je nie pas qu'il peut y avoir des manques d'effectifs, mais on a un réflexe syndical au Québec et même gouvernemental de pomper encore plus de cash dans la machine à chaque fois qu'il y a un problème. Alors que des fois, le problème, il est structurant. C'est le système, c'est la structure qui marche pas. Ça veut dire qu'on paye des ambulanciers pour aller conduire du monde qui n'ont pas d'affaires à l'urgence. On paye des ambulanciers pour rester dans leur char pendant 3 heures de temps parce que ça déborde. On les paye.
La dame qui est décédée dans sa voiture, qui s'est rendue à l'urgence de Chauveau, on est en contact avec sa fille un petit peu au cours des dernières, dans les dernières semaines, puis elle vient juste de nous texter. Elle dit, c'est ma mère qui est décédée dans le stationnement de l'hôpital Chauveau. Elle avait une fatigue extrême et de la douleur au cou et la tête lourde. C'était les symptômes d'infarctus chez la femme. Alors, elle était priorité 7. Elle dit, il n'y avait pas assez d'ambulances sur le terrain. Alors, même si elle avait été cotée priorité 3, qui est plus important, ça aurait subi le même sort. Mais ce qu'il m'a dit, l'ambulancier...
Mais probablement que les autres ambulances...
C'est exactement ça.
Au moment où sa mère... Bon courage, en passant, on pense à elle, sympathie. Au moment où sa mère est dans son char, là, puis elle va mourir sur le trajet, il y a peut-être des ambulanciers qui sont dans leur char depuis 3 heures avec quelqu'un. Il y en a peut-être qui vont chercher une jeune fille qui fait une crise d'anxiété, puis il y en a peut-être un autre qui est dans un cas où la personne avait une difficulté respiratoire, puis là, ça a été mal évalué.
Exactement.
Parce que les autres ambulances, ils étaient là. Il était juste affecté sur d'autres tâches.
Parce que c'est ça l'affaire. Parce que l'ambulancier ici, il me dit, si en 12 heures, si sur un chiffre de 12 heures, il y a des fois où j'ai zéro appel qui nécessitait vraiment d'ambulance, il dit, les chances qu'on ait sur le territoire de la ville de Québec 300 appels urgents en même temps sont plutôt rares. Fait que s'il manque d'ambulanciers ou d'ambulances sur le territoire de la ville de Québec pour un appel qui est aussi urgent, dites-vous que c'est parce qu'il y en a qui sont pognés avec des appels qui ne sont pas urgents.
8h01, 25226, vous avez d'autres choses à ajouter? On s'en va là.
Il y a plusieurs réactions. Je ne sais pas si tu veux que je t'en lise un petit peu. Là.
Ben oui, vas-y, prenons le temps.
Oui, il y a un pharmacien qui nous a écrit, qui a déjà eu un patient qui avait appelé une ambulance pour aller déjeuner à un restaurant qui était près de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Alors, il a appelé une ambulance pour se rendre à l'urgence de l'hôpital de l'Enfant Jésus, puis en fait, c'était pour aller déjeuner à côté.
Il y a un monsieur qui a fait ça pendant des années. Vous l'avez déjà compté, hein? Le monsieur qui voulait aller à Place Laurier. Il magasinait à Place Laurier, puis IBS. Il voulait pas payer le taxi ou le transport en commun, il collait l'ambulance. L'ambulance arrivait au CHUL, puis il sortait. Les ambulanciers le voyaient, là. Il sortait, il traversait la rue, puis il allait magasiner à Place Laurier. Il a fait ça pendant des années. Voulez-vous savoir comment l'histoire finit? Non, ça finit pas bien, mais ça finit, je veux juste dire, bizarre. À un moment donné, les mêmes ambulanciers sont allés leur conduire, comme d'habitude, au CHUL, puis ils n'ont pas le choix en passant. Ils peuvent pas dire non. La loi les oblige. Mm-hmm. Là, vous allez dire, ils vont s'en rendre compte de m'amener? Oui, oui. Ils n'ont pas le droit. Il pogne, il envoie au CHUL, puis ah ouais, il disait, là, bon, finalement, je me sens bien. Puis là, il traverse, ça va magasiner. Les mêmes ambulanciers ont été collés une heure plus tard pour une crise cardiaque à Place Laurier. C'était lui. Alors, ça a fini comme ça. J'ai pas dit que ça finit bien, là. Mm. Attention, trompez-vous pas. Il est mort, c'est triste. Crise cardiaque, mais il venait juste de coller encore une fois l'ambulance pour rien, puis ils l'ont ramassé mort au centre d'achat. Alors, ça finit très mal. Ça finit pas bien.
Il y a quelqu'un qui nous dit que pour les répartiteurs des ambulances, il dit au téléphone, évaluer l'état d'une victime, c'est assez difficile, surtout que tout le monde est au niveau 10 lorsqu'on leur demande leur niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10.
D'où l'importance d'avoir des... Oui, c'est difficile. D'où l'importance d'avoir un professionnel ou une professionnelle de la santé et non pas quelqu'un qui marche pas au bonus, mais plus à recommande d'ambulance, mieux à côté. C'est ça que ton contact te dit. Là.
Ouais.
Alors oui, c'est tough. Mais c'est pour ça que ça prend des experts.
Ensuite, ça rentre un peu vite, là. J'ai la misère à les lire un peu d'avance. Mais on en a plusieurs. Quelqu'un nous dit, les ambulanciers doivent être habilités à détecter les faux symptômes. Voyons donc, ils n'ont pas de jugement, ces gens-là. En fait, c'est pas les ambulanciers le problème, c'est les
répartiteurs. Ils n'ont pas le choix. Non, mais on pourrait leur donner plus de responsabilités. On pourrait peut-être leur donner une marge de manœuvre quand ils arrivent dans un cas, comme ce que je vous ai conté ou ailleurs. Garde, là, excuse, on te voit, là, vraiment, là. C'est clair que t'as pas d'affaire à l'urgence.
Ils pourraient, mais là, la loi.
T'as pas d'affaire dans l'ambulance. Non. Une fois qu'ils sont calés, c'est une obligation légale, t'as pas le choix, il faut que tu y ailles.
Ensuite, quelqu'un me dit, je travaille dans une résidence privée, je n'ai pas d'infirmière, mais j'ai un docteur et je suis obligée d'avoir le 811 avant et ensuite le 911, mais n'oublie jamais que la personne du 811 ne voit pas la personne. C'est-à-dire qu'avant, si le médecin n'est pas là, il faut que j'appelle 811, ensuite le 911, mais 811, des fois, ça donne rien.
Ouais.